Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Pourquoi une émission spéciale en ce dimanche 13 février ? Tout simplement parce que c'est la date choisie par l'UNESCO pour célébrer la radio, la Journée mondiale de la radio. Alors, pour fêter ça dignement, nous avons décidé d'inviter Philippe Marsan. Philippe Marsan, qui est un passionné depuis de nombreuses années de ces vieux postes de radio des années 30, 40, 50, 60 même, ces postes de radio au look vintage et au cadran parsemé de destinations exotiques qui nous ont tous fait rêver, je crois, quand nous étions gamins. Philippe Marsan est un petit peu collectionneur, il est surtout un grand connaisseur de l'histoire de la radio, en sachant glisser un peu de poésie dans les aspects techniques de l'électronique du passé. Philippe Marsan.
Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de RIGFM. Voilà, ben je me présente, je suis Philippe Marsan, je suis bordelais, je suis né à Bordeaux à une époque où les mamans pouvaient accoucher à la maison. Donc pour ceux qui connaissent, je suis né près de la place de la Victoire, donc vous voyez c'est un peu le centre-ville. Et dès l'âge de 4-5 ans, j'entendais mes grands-parents notamment qui écoutaient la radio. Donc c'était les années 50, 1955-56. On entendait déjà parler de politique, hein. On disait à l'époque le président du conseil, monsieur Guy Mollet, vous voyez, qui a marqué l'histoire. Donc je voyais, c'est mes grands-parents qui écoutaient la radio, l'oreille contre le haut-parleur, et je me disais toujours, mais comment ça fonctionne? D'où viennent les ondes? Qu'est-ce qui se passe? Alors ce sont les différentes questions que je me posais. Alors plus tard, bon, le temps a passé, j'ai grandi, et j'ai commencé à vouloir savoir ce qui se passait. Alors quand j'ai fini l'école primaire, je suis arrivé au lycée, et à l'époque, le lycée où je me trouvais à Bordeaux, le lycée municipal, dispensait les matières de la 6e à la terminale. Donc je suis resté dans le même lycée, de la 6e à la terminale. Et en 3e, je devais avoir 16-17 ans, ouais, 16 ans, j'avais un copain, son père était radioamateur, et il habitait tout en haut de Florac. Et évidemment, c'est excellent cet endroit pour recevoir les ondes. Donc à l'époque, les jours de repos, c'était le jeudi, c'était pas le mercredi. Donc nous partions, eh bien, je partais à vélo, après plus tard j'ai eu un Solex, et on partait à vélo chez le copain Dédé, eh bien, écouter les radios du monde. Alors son père avait du matériel professionnel, eh, parce qu'il était féru en la matière, mais nous, eh bien, on réparait ces bons vieux postes à lampe des années 60, et on essayait de capter quelques stations étrangères, mais qui parlaient français. Alors à cette époque-là, il y avait la Chine, il y avait la Pologne, la Russie, les États-Unis, bon, France Inter, bien sûr, et on essayait de capter au mieux possible, de trouver les antennes adéquates, et de faire fonctionner ces appareils. Voilà, alors ça m'a amené, donc, à l'âge adulte, le service militaire. Bon, on m'a mis dans une Jeep comme radio, donc j'étais entouré de postes de radio dans la Jeep. Par moins 15 en Allemagne, la Jeep n'était pas chauffée, il faisait froid. Hein. J'étais content d'être contre mes postes de radio avec la Parka. Et puis au retour, se marier, les enfants, la vie, etc. Et puis plus tard, bien des années après, je m'y suis remis. Parce que j'ai un voisin qui était collectionneur, qui aimait collectionner les objets, notamment les assiettes, les meubles. Et un jour, il lisait la revue du collectionneur, la vie du collectionneur, il me dit, Philippe, il y a une association, là, c'était en 1997, une association qui s'est créée, ça s'appelle Retrophonia, et c'est des amateurs de radio ancienne qui s'intéressent à la technique et tout. Donc je me suis abonné au club. Ce club est devenu en 2004 Radiophile, dont vous entendrez parler peut-être dans l'interview. Et là, donc j'ai rencontré des gens, il y avait également du matériel disponible, on peut échanger par mail ou par téléphone, donc il y a une assistante, il y a une aide, et puis je me suis mis à faire quelques petites expositions pour le public, et puis participer comme ça à des brocantes ou à des expositions, voilà. Et puis après la retraite est arrivée, alors je suis pas un féru, parce que je fais autre chose. Je fais de la danse, je fais de la gym, je fais du yoga aussi. Et puis j'aime bien la musique. Je sais qu'Hervé aime beaucoup la musique.
C'est pas
Alors,
fou.
C'est peut-être pas tout à fait la même musique, quoique j'aime bien aussi le pop rock. Hein. C'est ce que je lui disais l'autre jour. Il y a un ancien de Radio Caroline là, qui a monté une radio, Radio Atlantique 2000, d'ailleurs, qui a un site internet, et qui passe beaucoup de ce pop rock de ces années-là, du temps des radios pirates, comme on disait. Voilà.
Et oui, que j'écoutais, moi, petit, dans mon île en Bretagne, on arrivait à capter Radio Caroline, donc avec un bon crachouillis dessus, devant, derrière. Donc là, c'était un peu de la purée sonore, mais ça faisait la magie. D'ailleurs, quand on parle de magie, vous collectionnez des postes ?
Oui, quelques-uns. Je ne suis pas collectionneur, hein. Attention, je suis amateur, et j'ai quelques postes à la maison qui souvent ont une valeur sentimentale.
Dans le choix de vos postes de radio, c'est quoi ? C'est l'apparence, ce côté un peu rétro des vieux postes qui à l'époque étaient quand même sacrément bien faits, bien jolis, hein. Ou c'est plutôt le côté technique de vous dire « Ah, celui-là, il est plus puissant, ou il fonctionne comme ci, ou celui-là, il a la lampe numérotant qui marche super bien ». C'est plus la technique ou l'esthétique, en fait ?
Je vais vous étonner, parce que quelquefois, c'est madame qui les choisit. Madame qui les trouve bien. Alors, je cours pas après les marques rares, hein, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui cherchent les marques rares, qui coûtent cher, etc. Non, je cherche le poste qui me plaît, ou surtout à madame. Hein. Alors, les techniques sont à peu près toutes les mêmes. Il y a quand même quelques différences, parce que, par exemple, dernièrement, j'ai trouvé un Romance FM, qui est un poste Schneider de 1958, et qui reçoit une partie de la bande FM, hein, c'est-à-dire de 88 à 102. Et il est entièrement équipé FM, il fait AM, FM. Donc ceux-là sont un peu plus compliqués. Les techniques sont plus difficiles, surtout que ça fonctionne à lampe. Mais autrement. Alors c'est vrai qu'il y a le côté technique, mais je ne suis pas collectionneur. C'est souvent sentimental. Par exemple, une fois, il y a un ami qui était directeur des postes à la retraite, qui m'a dit « J'ai ce poste, vous pourriez me le réparer ?» Oh, je dis « Si vous voulez. » Alors moi, je répare bénévolement. Je suis bénévole. Si j'achète des pièces, ben, les gens me remboursent les pièces. Mais c'est tout. S'ils veulent m'offrir une bonne bouteille, ils le font. Mais c'est pas du tout obligatoire. Je fais ça bénévolement. Il m'avait dit, écoutez, si vous me réparez ce poste, je vous fais un cadeau. Oh ben, j'ai dit oui, mais faites pas un cadeau très cher. Et il avait un autre poste de radio de 1951, qui est très joli, qui est un prélude de Schneider, bien sûr qui ne fonctionnait pas, mais qui m'a donné comme ça pour me remercier. Et je l'ai remis en fonctionnement. Voilà.
Et sans indiscrétion, vous avez combien de postes de radio chez vous ?
Oh, en exposition dans la maison, j'ai une pièce qui fait salle à manger, salon, j'ai réussi à en placer 8. En haut, à l'étage, bon, il y a un bureau, une chambre, il y en a 3. Et puis dans un placard, parce que j'ai un garage qui fait garage et chez, dans un chez, j'en ai 4-5 de plus, vous voyez.
Alors, tous en état de marche ?
Non. Beaucoup ne fonctionnent pas, ou ne sont pas terminés. Et puis il y en a, on ne peut pas tous les réparer. Sauf les gens qui sont vraiment doués, qui sont professionnels pour le faire. Il existe encore des gens qui réparent officiellement des postes de radio. Il y en a un à la Canon-Océan. Et ces gens-là vous réparent pratiquement 90-95% des postes. Oui. Mais moi, il y en a beaucoup que je ne sais pas trop faire. Parce que ce n'est pas mon métier d'abord. Et j'ai fait ça par passion. J'ai quand même des bases d'électricité et d'électronique. Sachant que c'est de l'électronique analogique. Actuellement, on travaille uniquement sur le numérique, le digital. Mmh. Tout ce qu'on a, vos tables de mixage, le son, je le vois là sur l'écran, tout ça, c'est numérique digital. Là, c'est de l'électronique analogique.
Oui, parce que ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que vous êtes venu avec un poste qui est un peu particulier, puisqu'il n'a pas d'habillage en bois, il n'a pas de nacre, il n'a pas de voyant. Il est posé dans une caisse en plexiglas, en fait. Donc on voit tout l'intérieur et c'est... Effectivement, ça n'a pas grand-chose de... Il n'y a pas d'informatique là-dedans.
Non, voilà.
Je vois une espèce de roue. Je vois une grosse lampe, là, un peu en forme de fusée, un haut-parleur, évidemment, et une espèce de gros cylindre avec du fil de cuivre dessus.
Voilà.
Et on se demande comment ça fait de... Ça fait du son, tout ça, en fait. Alors et ça, pourtant, il marche. Hein.
Oui, alors ça, c'est un poste des années 50. Je crois qu'il est de 55, à peu près. C'est ce qu'on appelait l'époque du vintage. Donc, évidemment, son ébénisterie qui est en plastique n'est pas vintage, puisque c'est pour faire la démonstration. Et vous avez un certain nombre d'organes qui permettent de le faire fonctionner, comme par exemple ce transformateur, qui va transformer votre courant électrique de la maison, qui fait 230 volts, en différentes tensions, le 6 volts pour chauffer les lampes, le 250 volts pour faire de la haute tension, etc. Vous voyez. Donc ça, c'est pour adapter. Et ensuite, vous avez des lampes, ça ressemble à des ampoules, en fait. Sauf que quand c'est éclairé, c'est un petit éclairage. Alors pourquoi on appelle ça des lampes ? Parce que la lampe a été découverte en 1907 par un Américain, il s'appelle Lee de Forest. Et 1907, si vous calculez bien, la guerre de 14 est arrivée très vite. Donc cette lampe a été améliorée par un militaire français qui s'appelait le général Ferrier, Gustave Ferrier. Ce général Ferrier a mis au point la lampe TM, c'est-à-dire la lampe, à partir de la triode de Lee de Forest, faire une lampe qui est une lampe amplificatrice. Et alors pourquoi on l'appelle une lampe ? Parce qu'elle éclaire. Alors le souci, c'est que vous mettez un poste de radio dans des tranchées, à l'époque ils sont dans les tranchées, vous mettez un poste de radio, les lampes s'éclairent et l'ennemi vous voit bien la nuit. Alors ils ont eu l'idée de peindre les lampes en bleu. Donc elles étaient colorées en bleu foncé, c'était des grosses lampes, et ça s'appelait vraiment des lampes parce que ça éclairait et ça faisait aussi de la radio. Ça, ce sont les lampes que vous avez là, ce sont des lampes des années 60, 60-70, ce sont les dernières qu'on a fabriquées au niveau modèle. On en trouve encore.
Et si on parle de son, j'ai eu dans le temps un ampli à lampe, un ampli de basse, ou de guitare d'ailleurs. Mais j'ai toujours trouvé que les amplis à lampe avaient un son plus chaleureux, plus agréable que les nouveaux amplis. Là, je parle ampli de guitare, qui sonnent un peu secs en fait. Voilà. C'est la même chose pour les postes de radio, on a ce son un peu
pareil.
Plus chaud.
Alors ça vient d'une lampe. Une lampe, c'est un tube dans lequel on vide de l'air. On aspire l'air, on vide de l'air. Et vous avez un filament qui chauffe un métal, qu'on appelle la cathode, bon, ça c'est technique. Il chauffe le métal, et le métal, en étant chauffé, va laisser partir des électrons. Les électrons sont des charges négatives, et ce sont les électrons d'ailleurs qui font le courant électrique. D'où l'électronique, qui est la science des électrons. Donc ces électrons s'en vont dans le vide, ils se baladent, et ils sont attirés, comme ils sont de charges négatives, par des morceaux de métaux qu'on appelle les plaques, les grilles, et qui sont positives. Et là, on fait passer un courant à l'intérieur. Mais ces électrons qui se baladent dans le vide créent une charge d'espace. C'est ça qui vous donne ce son ondulé, voyez ? Voilà. Tandis que les équipements modernes, tout ce qui est ordinateur et tout ce que vous entendez avec vos chaînes son, là, c'est du numérique, mais ce sont des semi-conducteurs qui sont intégrés. Ce sont des transistors, il y en a des milliers et des milliers. Et on travaille dans la matière, là. C'est-à-dire qu'on travaille dans des métaux comme le silicium, etc. Et donc, on travaille dans la matière. Et comme on travaille dans la matière, évidemment, les électrons ne se déplacent pas de la même façon. D'abord, les trajets sont beaucoup plus courts. Les trajets sont sur des micromètres, alors que dans une lampe, le trajet, il est sur 2 centimètres, vous voyez. Donc, il y a ce phénomène de charge d'espace qu'on entend dans les amplis à lampe.
Moi qui étais nul en physique et nul en maths, j'ai déjà un peu peur, voire limite je commence à avoir mal à la tête. Mais avant qu'on commence l'interview, on a discuté 5 minutes et vous me racontiez une petite anecdote où vous aviez réussi à écouter la radio en balançant juste un fil de fer dans un arbre et en collant la prise de votre casque dessus. Alors là, pour le coup, là on est dans le système ultra simple. Oui. Un fil de fer, ça peut suffire à capter la radio.
Voilà, c'est ce qui existait, on va dire en 1925-26. Alors on va prendre l'exemple de Bordeaux, puisqu'on est dans la région de Bordeaux. Il y a deux postes émetteurs de radio, un peu comme RIG. L'une s'appelait Bordeaux Sud-Ouest, était une radio privée, qui passait des pubs d'ailleurs déjà. Alors on disait pas les pubs, on disait des réclames. Alors je vais vous en citer une anecdote. Ah, les petites pilules Carter pour le foie. Végétales et douces, elles vous stimulent la fonction hépatique. Vous voyez, voilà ce qu'on racontait à Bordeaux Sud-Ouest. Et puis vous avez Bordeaux Lafayette, qui était le poste d'État. On appelait ça le poste DPTT, parce que ça appartenait à l'administration de la Poste. Et c'était ces deux chaînes qui émettaient en ondes moyennes. Donc on n'utilisait pas la FM à l'époque. Elle était encore à l'état expérimental. Donc c'était essentiellement des ondes moyennes, avec quand même assez de puissance. Et ces émetteurs se trouvaient à Bordeaux. Par exemple, il y en avait un qui était rue Carrère, à Codéran, et c'est là que se trouvait l'émetteur de Bordeaux-Lafayette. Donc il était assez puissant, c'était des puissances de l'ordre de 100-200 kW à l'époque. Et évidemment, c'était facile à capter, parce qu'un émetteur émet une énergie. Hein. C'est-à-dire à côté d'une antenne d'émission, si vous avez une forte puissance, vous prenez une ampoule électrique, alors pas les ampoules modernes, hein, les ampoules à filament d'autrefois, vous prenez deux fils comme ça, avec un manche à balai, vous allez à côté de l'antenne et votre ampoule va s'éclairer. Donc ça émet beaucoup, beaucoup d'énergie, une antenne radio. Oui, et ce qui fait que le poste à galène, eh bien, c'est un poste qui, par son fil d'antenne que vous lancez dans un arbre, reçoit l'énergie. Vous mettez une terre pour qu'il y ait une continuité entre l'antenne et la terre, que ça fasse un flux électrique. Et avec une pierre, alors la galène, c'est une diode, en fait. Pour ceux qui ont fait un peu de bricolage, c'est ce qu'on appelle la diode, qui existe toujours et qui est un composant qui est très utilisé dans les ordinateurs. Et avec la moustache de rat, c'est le fil de fer. Le fil de fer, on appuie sur la galène, sur la pierre, et quand on trouve le bon point, pam, on entend la radio. Voilà.
Et ça, sans être branché nulle part à l'électricité.
Alors vous n'avez pas de pile, vous n'avez pas de batterie, vous n'avez rien du tout. Alors pour vous donner une anecdote quand même qui est assez dure, ça s'est passé dans un camp de concentration, alors je ne sais pas si c'est à Auschwitz ou un autre centre de concentration, il y avait un docteur dans les stalags. Vous savez, les stalags, c'était ces baraquements où on mettait les prisonniers. Et il y avait un médecin qui était là et qui soignait les prisonniers, etc., et qui travaillait comme les autres. Hein. Il avait réussi à récupérer des lames de rasoir. Il avait récupéré des lames de rasoir. Il avait récupéré du fil électrique chez les Allemands dans les poubelles, en cherchant dans les poubelles, des écouteurs de téléphone. Et puis, en utilisant la gouttière en zinc qui faisait le tour du stalag, il réussissait de temps en temps à avoir des nouvelles de Londres. Des nouvelles de Londres et donner aux prisonniers du camp quelques informations, parce que les Allemands, à longueur d'année, de journée, leur disaient que la guerre était finie, que tout avait capitulé, qu'ils étaient les seuls maîtres à bord. Et donc, ça permettait d'informer certaines personnes en leur disant que eh bien, la guerre continuait, qu'il y avait toujours des combattants. Voilà. Alors, bien sûr, il a été arrêté, il a été attrapé. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de RIGFM. Voilà, je me présente, je suis Philippe Marsan, je suis bordelais.
Maintenant, la radio, c'est numérique, c'est le DAB, etc. On peut capter des chaînes du monde entier via Internet. Mais néanmoins, avec la radio et sans avoir du matériel forcément monstrueux, vous me disiez que vous arriviez à capter des stations coréennes, des stations roumaines. Donc, en fait, les ondes font quasiment le tour de la planète et si on sait faire, on peut les attraper.
Voilà. Alors, ça dépend du matériel qu'on a. Si vous prenez ces postes-là, comme on a ici, qu'on appelle les postes à lampe, c'est-à-dire l'époque vintage, là, vous allez attraper autour de l'Europe. Angleterre, Allemagne, Italie, etc. Albanie, vous voyez, un peu tous ces pays-là. Après, si vous avez du matériel beaucoup plus puissant, là, vous allez entendre le Vietnam, vous allez entendre la Corée, etc. Mais actuellement, il y a certaines stations internationales qui utilisent les satellites. Alors par exemple, si vous prenez la Corée du Sud, vous avez les studios qui sont à Séoul, les studios de la KBS, ils sont à Séoul. Ensuite, c'est véhiculé à un centre de satellites. Le centre de satellites envoie le signal sur un satellite qui le renvoie au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, la Corée du Sud va louer un émetteur. Un émetteur qui fonctionne plus, qui va être remis en service, et cet émetteur qui se trouve au Royaume-Uni va arroser l'Europe. Donc en fait, vous allez entendre la Corée du Sud comme les gens pendant la guerre écoutaient Londres. Mmh. C'est un peu la même chose. Donc si pendant la guerre, ils pouvaient entendre Londres, nous, maintenant, on peut les entendre un émetteur se trouvant au Royaume-Uni.
Et ça, c'est un nouveau dada aussi, outre de le côté « je collectionne des postes », d'essayer d'attraper des fréquences rares ou très très éloignées.
Enfin, je ne suis pas collectionneur, je ne collectionne pas, c'est pour le plaisir, j'en ai quelques-uns. Mais j'aime que ça soit vivant. C'est pareil quand je fais une petite expo, s'il y a des gens qui viennent, du public ou quelques enfants, leur montrer que c'est vivant. Vous voyez, j'ai un vieux téléphone, avec le vieux téléphone, je l'ai bricolé, j'ai fabriqué une ligne téléphonique fictive qui est dans une boîte. C'est une fausse ligne téléphonique. Le téléphone est branché dessus et on peut voir sur un écran d'oscilloscope le son. Alors les enfants, je l'ai fait, bon maintenant on peut plus avec la Covid, mais je vous parle de 2017 ou 2018, on les fait souffler dans le téléphone et si ils sifflent, ils arrivent à faire une onde parfaite, c'est-à-dire une seule note en fait. C'est pour leur montrer aussi l'aspect du son, voyez. Ça leur plaît. Et après ce son, on va le mettre dans un petit émetteur, un petit montage émetteur. et avec une radio à transistor, on va la balader, et on va entendre, voyez. Et on va faire de la, une liaison sans fil. Voilà.
Il y a toujours ce côté magique au fait de, voilà, d'imaginer que l'histoire des ondes, c'est quand même assez impressionnant. On est là, on regarde de l'autre côté, on voit les arbres, le parc, les petits papillons qui se baladent, et entre les arbres et nous, il y a peut-être 10, 15, 20 fréquences de radio, on entend peut-être parler des Coréens, ou un gars qui est sur le bassin d'Arcachon, et tout ça c'est dans l'air. Bah, je trouve ça assez merveilleux quand même.
Vous voyez, un exemple simple, à la fin du 19e siècle, on savait pas faire de la radio, mais on savait travailler le Morse, puisqu'il existait le télégraphe de Morse, qui était un télégraphe sur câble, qui traversait l'Atlantique et tout par des câbles, par des fils. Et après, on a essayé de faire du télégraphe sans fil, c'est-à-dire d'émettre et de recevoir dans l'espace. Alors vous avez tout un tas de savants, vous avez Hertz, vous avez Marconi, etc., qui ont essayé de faire ça. Mais il y a une chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est qu'on fait un émetteur et un récepteur. Mais on s'aperçoit qu'au bout d'une certaine distance, qui est souvent très courte, ben le récepteur, il reçoit plus rien. Alors c'est un Russe qui s'en est inquiété. C'était un marin de la marine russe, la marine marchande, Alexandre Popov. Lui, il voulait que son émetteur et son récepteur soient le plus loin possible, l'un de l'autre. Et il voulait surtout prévenir les agriculteurs quand l'orage arrivait. Il voulait entendre, avec son appareil, l'orage, avant que l'orage arrive, pour avoir le temps de rentrer les animaux. Donc c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'aller chercher des ballons qui étaient gonflés à l'hydrogène, souvent des ballons qui servaient aux enfants pour jouer. Et au bout de ces ballons, il a accroché un fil électrique et les ballons sont partis en hauteur. Et là, il s'est rendu compte qu'avec son émetteur et son récepteur, il pouvait entendre son émission à plusieurs kilomètres. Donc c'est comme ça qu'il a inventé l'antenne. C'est tout bête, mais l'antenne, il a fallu l'inventer.
Et c'est tout bête, mais c'est poétique, comme
voilà.
Avec des petits ballons d'enfants et un fil de fer accroché.
Voilà.
Donc Philippe Marsan, vous êtes donc passionné, collectionneur, pas collectionneur.
Non, amateur.
Amateur collectionneur, un peu quand même. Vous intéressez à la technique, vous faites de la, comment on appelle ça, de la vulgarisation, vous êtes dans une association, je crois, qui expose ses postes et qui peut initier les gens au mystère de la transmission, c'est ça ?
Alors, c'est une association internationale. C'est international, bon, il y a 90% de Français, mais il y a des Québécois, des Allemands, des Belges, des Anglais. Donc, ce qui fait qu'il y a un site internet qui est en français et en anglais. Et ensuite, donc, dans cette association qui rassemble à peu près entre 1900 et 2000 membres, à peu près, hein, puisque c'est assez grand. Et là, chacun a son matériel, ses affaires. C'est-à-dire que l'association, elle a rien, à part quelques stocks de matériel pour nous dépanner. Et l'association en elle-même, elle organise son assemblée générale et elle organise chaque année une bourse, brocante bourse de radio où les gens, elle organise, c'est tout. Les gens amènent leur matériel, vendent, achètent, etc. Et là, on peut se trouver du vieux matériel, des vieux postes, des pièces, etc. Voilà.
Et ça se passe où ?
Alors, l'Assemblée Générale, tous les ans, on fait le Tour de France. Et là, cette année, ça se trouve entre Le Mans et Tours. Ça s'appelle Château du Loir.
Et c'est là qu'elle se tient la bourse aussi. Voilà. Si on est intéressé, on peut aller flotter et essayer de dénicher la perle rare, le poste.
Voilà. Il y a la bourse, brocante, etc. Mais c'est quand même spécialisé. C'est-à-dire qu'on va trouver déjà du matériel intéressant, c'est pas du n'importe quoi. Les gens qui sont là, qui vendent leur matériel ou qui vendent des postes de radio, c'est des choses triées, sélectionnées, en état de fonctionnement. Voilà. Donc on peut acheter des lampes, on peut aller acheter des résistances, des condensateurs, des composants.
Voilà. Oui, c'est plus le côté je me dépanne qu'une brocante, quoi, en fait.
Ah si, il y a la partie brocante avec des postes de radio.
Voilà. D'accord.
Alors les postes de radio, ben, ils vous proposent, mettons, 200 euros, ils lui disent c'est trop cher, vous marchandez, ça marche pas, et puis voilà, c'est ça. Alors il y a quelquefois des postes rares, des postes qui sont assez rares.
Ils coûtent cher aussi peut-être parce qu'ils sont beaux, parce qu'il y avait des vraies œuvres d'art dans les postes de l'ancien temps, avec les bénisteries,
les plus forts c'était les Américains. Les postes américains, des USA, des années 30, c'était magnifique. C'était des postes en cathédrale, on appelait ça les postes cathédrales. Nous, on en a fait de très jolis aussi, juste avant la guerre, et puis dans les années 50, ce qu'on appelle les sonorettes. Ce sont des postes aussi qui sont en bakélite. mais qui sont très jolis aussi. Il y en a un aussi, un Sonora, que j'ai toujours voulu m'acheter, mais chaque fois, il est à 300-400 euros, alors je veux pas mettre 300-400 euros là-dedans. Mais c'est bien, il est à colonnes. On dirait un temple, vous voyez, avec des colonnes. Voilà.
Et vous publiez aussi, j'imagine que c'est votre association qui fait ce...
Oui, alors un magazine qui est tous les deux mois.
Il s'appelle Radiophile.
Voilà, Radiophile, c'est facile à trouver. Radiophile, c'est comme Sœur Thérèse, c'est radiophile.com.
Quelle adresse d'ailleurs, www.radiophile.com.
Voilà, vous avez toutes les infos. Voilà.
On nous parle des 100 ans de la radiodiffusion, on nous parle des sapeurs téléphonistes, et il y a une photo d'un vieux Philips B4F80,
voilà,
qui est une pure splendeur.
Et à la dernière page, vous avez une Filetta. Alors la Filetta, c'était ce qu'on appelait des postes de chevet en 1959-60, qui fonctionnaient en 110 ou 220 volts, et qui était petit, en plastique. Alors vraiment, si vous regardez bien, c'est la forme vintage. Hein. C'est vraiment du vintage. C'est vraiment vintage. Et ça, on mettait ça souvent sur une table de chevet pour écouter la radio le soir. Alors ça a attrapé les ondes moyennes, ondes longues, voilà. Donc les gens écoutaient souvent à l'époque Europe 1 ou RMC sur les... Europe 1, salut les copains.
Puisqu'il n'y avait pas encore de radio libre à l'époque.
Et non, 1980.
Mais il est très joli, hein, ce système de sélection des ondes. On dirait une boussole, en fait, une aiguille d'une voilà. boussole, et on fait tourner ça. Et...
Alors ça, c'est bien parce que c'est un récepteur radio à lampe qui annonce les premiers transistors. Parce que les premiers postes à transistors étaient pareils, avec le même système de sélection de radio. Vous voyez, la même boussole, pareil. Ouais. Sauf qu'ils étaient à transistors. Donc ça fait une transition, ça fait... Moi j'en ai un comme ça, mais à pile, vous voyez. Il fonctionne très bien.
Okay.
Il y a très peu de parasites.
Et en parlant de parasites, est-ce que, avant qu'on se quitte, vous pouvez nous faire sonner un peu la bébête que vous nous avez amenée ?
On va essayer. Il faut que ça chauffe, c'est ça le problème. Hein.
Et oui, il y a un petit temps avant que ça... Ouais. Et ça marche.
Elles sortaient ensemble, vivaient ensemble et dormaient dans la même chambre. J'ai évoqué, Richard Lloyd Parry, la piste de la secte avec
voilà,
ce coup de fil.
Un essai de réception en grande zone.
Cette piste de la secte.
Mais ça marche.
Voilà.
Et je suis sûr qu'il y a des gens qui préfèrent écouter avec ce petit fond de crachouillis de parasites que d'avoir une transmission claire comme de l'eau de roche. Ça a son charme aussi. Hein.
Ça a son charme, oui. Ouais. Puis moi je dis, c'est toujours... Là encore, c'est une station connue, etc. Mais quand vous êtes là sur les ondes courtes, puis que vous entendez clac, clac, ah j'en ai un. Comme à la pêche, vous savez, quand on va à la pêche, et puis qu'on jette la meçon, et puis tac, ça mord. Hein.
Vous pouvez nous le dire, ça sera ma dernière question, Philippe Marsan, mais est-ce que ça vous arrive encore, justement, de tripatouiller la molette pour avoir des sons qui viennent des quatre coins du monde et essayer de vous dire, ah, il est où celui-là ?
Ah oui. Ça m'est arrivé il y a une semaine, oui.
La magie opère toujours.
Ah, toujours. C'est toujours magique. Il y a un effet magique. Voilà.
Mais merci beaucoup, Philippe Marsan.
Eh bien, merci, Hervé. C'est très gentil. Merci beaucoup.
Et si on veut vous retrouver, vous et vos collègues passionnés de radio, ben, les www.radiophile.com.
Eh bien, voilà, c'est tout. Voilà.
Merci beaucoup à Philippe Marsan pour cette conversation passionnante sur ses premiers postes de radio qui nous ont tous fait rêver et suscité pas mal de vocations. Alors si vous aussi vous voulez vous lancer dans la collection, réparer le vieux poste de papy ou tout simplement parfaire votre culture générale, une seule adresse pour retrouver ces passionnés, www.radiophile.com. Et il ne me reste plus à présent qu'à vous dire à bientôt, fidèle au poste, derrière le poste.